il est pas méchant. À la belle des Udines, marchez les et ralliant les Atamans dans leur campagne zéphique qui traquait Trotsky tremblant dans leur campagne zéphique.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87 MHz 8, au Havre sur 101 MHz 1, au Mans sur 98 MHz 8. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, diffusé en direct le mercredi 8 janvier de 18 à 21h et en différé le jeudi 9 janvier dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Patrick Simon. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Pour nous aider à demeurer libre, vous pouvez adhérer à notre association. La cotisation annuelle minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Nous adressons 3 exemplaires de chaque publication aux adhérents qui auront décidé de cotiser pour une somme supérieure à la redevance de télévision. Adressez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le souhaitez, vous pouvez intervenir au cours de ce libre journal par téléphone au 46 51 00 85. Ou par télécopieur au
46 51 00 85. Bonsoir à tous, bonne année, bonne santé, le paradis à la fin de vos jours.
C'est comme ça qu'on dit. Très bien.
Hein, c'est bien.
C'est comme ça qu'on dit dans mes pays, oui.
Et bonne...
Le plus tard possible, naturellement.
Bah, bien sûr. En quoi que. Hein, entre nous, c'est
entre
pas,
nous, oui, en ce
c'est
moment,
pas si rigolo que ça. Bonne année tout spécialement à mes amis, à nos amis de présent.
À nos amis de
présent. Qui viennent de célébrer leur 15e anniversaire.
Mm-hmm.
Hein, tout ça ne nous rajeunit pas. Hein.
Et non.
Et donc, on leur souhaite au moins 10 fois autant.
Oui.
Hein, au moins. Je vous signale qu'après l'émission, nous tirerons les rois par la barbe à la mer, chez la mère agitée, 21 rue Campagne Première.
35.
Non, pas 35, mais non, n'importe quoi. Enfin, en tout cas, rue Campagne Première, c'est pas compliqué, c'est au milieu.
Ne les envoyez pas chez le médecin.
Alors, comme c'est simplement une galette, on fait pas un dîner, on fait une galette. Parce qu'on a pensé qu'après les fêtes, quand même, les dîners, ça commençait.
Ça commençait à être un peu pesant, là. Hein.
Donc, pas de dîner, une galette.
La ligne.
Et du cidre, ou du vin, pour ceux qui en voudront, à consommer avec modération.
Comme il se doit.
Voilà. Le prix sera de 50 francs. Donc, si vous voulez nous rejoindre, vous téléphonez à la mère agitée, dont naturellement, je n'ai pas le numéro de téléphone sous les yeux. Ah, je suis un petit peu inquiet parce que...
C'est pas ça, moi. J'en ai un pour essayer.
Oui, enfin, soyons prudents. Hein.
Ça doit être 43, 35, 56, 75. Vous croyez qu'on a nos chances.
Si c'est un médecin...
Non, c'est quelqu'un de la maison puisque je l'ai écrit sur cette chemise.
Alors, je disais que j'étais un peu inquiet parce que j'attendais Roger Hollande. Pardon. Et puis, pas de Roger. J'espère qu'il n'a pas dérapé en automobile à pétrole.
Non. Ça, pour le moment, ça ne glisse pas encore.
Bon.
Ça pourrait venir, mais enfin...
Quelques nouvelles de l'actualité. La Ligue communiste révolutionnaire vient de recevoir 2 millions de francs attribués au titre de la nouvelle aide publique aux partis ne disposant pas de représentants de représentation parlementaire. 2 millions de francs pour la Ligue communiste révolutionnaire. C'est-à-dire que ça, c'est magnifique, quoi. Vous avez un parti en France, enfin une organisation factieuse en France, une organisation qui est une organisation de lutte contre les structures même du pays, qui veulent la révolution, qui veulent tout foutre en l'air, et ces gens-là, on leur donne 2 millions de francs pour foutre le système en l'air.
Oui, mais ils luttent aussi contre le Front National, qui est quand même le seul péril actuel.
Et le Mouvement pour la France de Philippe de Villiers dispose déjà de cette aide de l'État, nous dit Le Monde. L'organisation trotskiste vient par ailleurs de boucler la souscription. Alors ça, je sais pas pourquoi. Ils écrivent curieusement par moment dans Le Monde. Il semblerait, d'après le contexte, que le Mouvement pour la France de Philippe de Villiers soit devenu une organisation trotskiste. Emmanuel Ratier, est-ce que vous pouvez confirmer cette information politiquement très intéressante et nouvelle ?
Non, mais non, les deux organisations ont reçu de l'argent.
Non.
Ce qu'il faut, c'est avoir un certain nombre de signatures, des signatures d'élus et des dons. Et si vous réussissez, je crois, c'est à récupérer, je me souviens plus, 1 ou 2 millions de francs, 10 000 signatures de personnes, dont 500 d'élus, l'État vous verse 2 millions de francs.
Ben, je dois pouvoir me débrouiller, moi.
Oui, ben, y a toute une série de petits malins qui sont en train de monter leur... petits partis pour essayer de toucher un peu d'argent.
Est-ce que je pourrais avoir 500 signatures d'élus? C'est pas sûr, quand même. Hein. D'élus du peuple, ne pas confondre. Donc voilà, ça c'était déjà une première information. Et alors, remarquez, il y a un bon moyen d'avoir une signature d'élu, c'est d'écrire. Tiens, ben voilà, j'ai trouvé la solution. Dans présent, hein, dans présent, numéro du jeudi 9 janvier 97, celui qui est en kiosque en ce moment. L'information, le titre, voilà, Roger qui arrive, donc qui n'a pas dérapé. C'est dommage qu'on n'ait pas la télévision, parce que vous verriez Roger en hiver.
Avec une petite gapette.
Alors, il a une bâche parfaitement assortie à son écharpe. Vous êtes d'une élégance, monsieur le député.
C'est ma fille à qui ça ferait plaisir, parce que ça fait 10 ans qu'elle m'a offert cette casquette, je ne l'avais jamais mise.
Et ben voilà.
Mais maintenant qu'il y a plus trop longtemps,
nous sommes témoins. Il l'aime tellement qu'il ne l'enlève même pas dans le studio, il a peur d'avoir froid.
Donc je disais, pour avoir la signature de 500 élus, il suffit d'écrire à tous ceux qui sont inculpés. Pardon, on ne dit plus inculpés maintenant, on dit mis en examen. Car présent nous apprend qu'il y a 500 élus mis en examen, pas tout à fait, un peu moins de 500 élus mis en examen. Et l'homme qui a annoncé cette information et qui est le patron de la police financière, il a dit exactement ça. Il y a environ 50 000, il y a donc un peu moins de 500 hommes politiques actuellement mis en examen. Or, il y a environ 50 000 élus en France. Donc, ce n'est pas un chiffre exceptionnel. Ça veut dire que 1% de supposés crapules, effectivement, c'est pas trop grave. C'est la bonne moyenne. Alors, présent sous la signature d'Yves Daouda l'ajoute, enfin commente en disant la comparaison, évidemment, entre le nombre d'inculpés, allez, disons inculpés après tout, 500, et le nombre d'élus, 50 000, ne tient pas, parce que c'est pas les élus qui ont les moyens de se faire un petit peu de gratte,
hein,
de toucher des pots de vin, des prébendes et de la corruption, ils sont pas 50 000. Il y a d'abord à peu près 30 000 communes en France où les élus sont des conseillers municipaux qui n'ont à peu près aucun pouvoir. Donc on peut imaginer que sur les 50 000, il y en a au moins 30 à 40 000 qui n'ont aucun moyen de se laisser corrompre, parce que ça n'intéresse personne de les corrompre.
Oui.
Donc il en reste 10 000. Hein, 10 000, 500 sur 10 000, ça fait combien ça, hein? Ça ferait du 5%, ça m'étonnerait qu'à moitié.
Il faut quand même savoir que quand on avait un groupe de députés, aucun de nos députés n'a été contacté par qui que ce soit pour des magouilles quelconques.
Mais Roger, c'est pas ça qu'il faut dire. Il faut dire au contraire, on faisait notre siège, mais nous avons vertueusement refusé.
Non, mais personne ne nous a rien proposé d'ailleurs, étant donné que pour magouiller, il ne suffit pas d'être député. Être député simplement, ça ne sert strictement à rien. Il faut être en plus maire ou conseiller général ou un truc comme ça. Ça, c'est l'amalgame, c'est le trop-plein d'activités qui permet de magouiller.
Le mieux, c'est quand même d'être maire dans une ville où il y a un casino. Là, c'est... Hein, là, on peut vraiment faire du gras. Hein, non?
Oui, comme dirait Raymond Barre, qui est maire de Lyon et qui va ouvrir un casino.
Oui, mais enfin, c'est probablement pour ne pas faire du gras. Il n'a pas besoin de faire du gras. Lui, il a déjà une superbe villa sur la Côte d'Azur, en ce qui concerne le gras financier, puis l'autre gras, il est servi aussi. Donc.
Je ne sais pas où vous en êtes, mais est-ce que vous avez parlé de l'anniversaire de la mort de François ?
Qui est mort ? Je ne savais même pas qu'il était malade. Non, pas encore, mais on va en parler.
Mais là, j'ai un simple truc à dire. Il n'y en aura pas pour 36 heures, mais c'est un truc tellement ahurissant.
Bon, alors, attends, tu vas nous faire rire, mais là, puisqu'on est parti pour rigoler, il faut quand même parler de Philippe Séguin. Oui. Philippe Séguin il était accueilli lundi aux conférences catholiques de Bruxelles. Oui. Alors on va savoir pourquoi Philippe Séguin était reçu aux conférences catholiques, enfin après tout.
Hein. Eh bien, je vais entendre à l'instant que le prochain, c'est Sarkozy.
Le prochain Premier ministre ?
Non, le prochain
qui sera reçu.
Qui est invité aux conférences catholiques. Là.
D'accord. Alors, Séguin a plaidé pour une Europe politique. Alors, il a dit qu'il était contre Maastricht, mais il est pour la monnaie unique, pour les institutions européennes et pour la défense européenne. Voilà. Donc, oui. Il est contre le traité, mais il est pour tout ce qui est contenu dans le traité.
Oui, alors, d'après M. Georges Marc Benamou, qui vient de sortir un bouquin, voilà ce que dit, ce que disait Mitterrand de Séguin. C'est le meilleur. D'ailleurs, il est à droite, mais enfin, il aurait pu être socialiste.
Oui, mais enfin, il faut dire que pour Tonton, ça n'avait pas beaucoup d'importance. Tout ça.
Le socialisme de Tonton était quand même assez nuancé.
Alors, je vous signale quand même, si vous êtes chômeur ou érémiste, il faut laisser tomber ces trucs-là, c'est pas du bon travail. Il faut essayer d'être chef d'orchestre, car Minute nous apprend que John Nechling, le nouveau chef d'orchestre du Grand Théâtre de Bordeaux, a été embauché par Juppé pour 85 000 francs par mois. Ce qui n'est pas beaucoup pour un grand chef d'orchestre. Mais ce que Minute précise, c'est que il ne sera à Bordeaux que 24 jours par an. Ce qui met la journée à 42 500 francs. C'est bien, non? C'est bien payé. Et puis, ou alors il y a une autre solution, si vous ne voulez pas être chef d'orchestre, vous pouvez être haut fonctionnaire. Ça, c'est le cas là, Chéli, qui nous apprend que le patron de la délégation générale pour l'armement, Jean-Yves Elmer, est un haut fonctionnaire heureux. Il est payé environ 4 fois plus que son ministre, Charles Millon. Il a été chargé d'étudier un plan d'économie pour l'armée. Alors, ce mec qui est chargé d'étudier un plan d'économie pour l'armée, on le paye quand même 160 000 francs par mois. Je trouve que la première économie qu'on pourrait faire, c'est son salaire. Par exemple.
C'est là qu'il y a un déphasage qui va tout faire péter, d'après moi. Il y a quelque chose qui... Il y a longtemps que ça ne tournait pas rond, mais là, c'est maintenant, ça a atteint vraiment des sommets. J'ai été malade la semaine dernière quand j'étais au château avec les scouts, là, et l'infirmière qui venait me soigner est venue, malgré la neige, malgré le verglas, malgré le blizzard et tout, enfin, elle est venue avec sa bagnole et tout. Et quand j'ai eu la facture des deux piqûres que cette femme est venue me faire par temps exécrable avec sa bagnole, donc assez frais et tout, j'ai payé, j'en avais honte, pour les deux piqûres, 53 francs. Oui. Et c'est là que j'ai réalisé au fond de mon grabat où j'étais en train de souffrir parce que j'étais vraiment très, très atteint, très malade, qu'il y avait quelque chose qui ne tournait plus dans ce pays. Voilà.
T'as peut-être pas attendu d'avoir la fièvre pour t'apercevoir que ça allait.
Ben oui, mais comme je ne fais jamais faire de piqûres, je savais qu'elle n'était pas très bien payée. Mais 53 francs, tarif normal, et exigé pour deux piqûres qu'elle est venue me faire avec sa voiture, partant de neige, de verglas et tout, je dis que c'est se foutre du monde. C'est se foutre du monde. Et on peut quand même se demander comment les gens ne sont pas dans la rue. On peut quand même se poser la question.
Elle serait venue régler ta télévision, ça te coûtait 500 francs de plus.
Oui.
Ben, je ne sais pas si Mme Tibéri est payée 25 francs là, par prestation, mais en tout cas, il y a une chose qui est assez drôle, c'est que quand le juge d'instruction lui a demandé comment s'était passée cette affaire de rapport qu'elle avait rédigé, et elle a dit deux choses qui sont très intéressantes. D'abord, elle a perdu le manuscrit. Ce qui est bête quand même. Et ensuite, elle a complètement oublié le nom de la personne qui a dactylographié le manuscrit. Hein? C'est bête parce que si elle le savait, ce nom, si elle pouvait le donner au magistrat, c'est l'affaire s'arrête tout de suite parce que ça serait la preuve définitive que c'est bien elle qui a rédigé ce rapport. Et elle ne peut pas. C'est bête d'avoir des trous de mémoire comme ça. Hein? Moi. Voilà. Donc, on ne saura pas. On ne saura pas qui... on n'aura jamais la preuve, quoi. Hein. Mais elle persiste quand même. Elle dit bien que c'est elle qui a rédigé ce rapport sur la francophonie. avec des fautes d'orthographe, d'ailleurs. Ouais. Voilà. Et puis, c'est à peu près tout ce qu'il y a dans l'actualité. Enfin, il y a encore plein de choses, mais qui sont absolument inintéressantes, sauf celles que va nous raconter Roger Hollande.
Oui, ben moi, c'est-à-dire que je suis assez stupéfait. Alors, nos amis qui nous écoutent vont dire, mais Roger, comme Serge, ils sont toujours stupéfaits. Oui, parce qu'en définitive, on appartient quand même à une génération où tout cela n'était pas très courant. Et quand on s'aperçoit chaque jour maintenant que ce qu'on a vu la veille n'est rien à côté de ce qu'on voit le jour même, et puis ça n'est rien à côté de ce qu'on verra le lendemain. Je n'ai pas entendu une critique, hein, lorsqu'on annonce aujourd'hui, par exemple, avec l'anniversaire de la mort de M. Mitterrand, que dès 1981, M. Mauroy savait que le président de la République avait un cancer. Alors cet homme rentre à l'Élysée, il est malade, il a un cancer, hein, et dès qu'il est à l'Élysée, il dit il n'est pas normal que les Français ne connaissent pas l'état de santé des gens qui dirigent. Et il fait faire par son docteur chaque mois un faux certificat médical disant qu'il est en bonne santé. Au bout de 7 ans, ça ne lui suffit pas, malade. Alors cette fois-ci, vraiment pour de bon, hein, il reprend un mandat de 7 ans. Mais comment veut-on qu'un pays tourne debout quand le premier magistrat de l'État, quand le président de la République, la plus haute autorité morale, soi-disant, du pays, se paie ce genre de luxe, de mensonges étayés par d'autres mensonges, hein, qui passent comme une lettre à la poste parce qu'on oblige des toubis à faire des certificats de complaisance. Mais tout ça est condamnable, est condamnable.
Tu as raison, mais je voudrais quand même souligner une chose. C'est que ce mensonge, il n'a été possible qu'avec la complicité active des Français, car les Français, dans leur immense majorité, pas ceux qui nous écoutent, mais les autres, ne veulent pas savoir la vérité. Là, tu cites l'exemple de la maladie de Mitterrand, mais Emmanuel Ratier et moi pouvons témoigner que dès 1983, la chose était connu, puisque nous avions enquêté et nous l'avions publié, toute l'histoire de la maladie de Mitterrand, la nature de cette maladie, c'est-à-dire un cancer de la prostate. On avait le témoignage de quelqu'un qui était soigné par le même médecin que lui et qui nous disait quel traitement il avait, comment il était soigné, etc., etc. Bon, ça a été publié dans Minute, mais je ne sais pas combien de fois. On a fait des dizaines de papiers sur cette question. Tous les journalistes de France étaient au courant. Enfin, tous ceux qui savent lire, c'est-à-dire la quasi-totalité. Quand même, maintenant, pour être journaliste, pour en gros savoir lire, ou au moins comprendre les 400 mots du vocabulaire de base de la télévision. Donc, tout le monde était censé être au courant. Personne n'en a parlé. Et quand, la seule fois où quelqu'un a osé poser la question à Mitterrand, en disant Minute évoque, etc. Mitterrand a répondu Minute passe son temps à m'enterrer, ils finiront bien par avoir raison. Bon, j'entendais ce matin sur France Inter un auditeur qui téléphonait pour fustiger les journalistes en disant jamais vous ne nous avez dit, jamais aucun journaliste français n'a dit la vérité sur la maladie de Mitterrand. Alors, c'est pas vrai. Ce brave homme, il croyait ça de bonne foi parce qu'il écoute France Inter. Alors évidemment, quand on écoute une radio de menteurs, et qu'après on proteste parce qu'on a entendu des mensonges, c'est totalement incohérent.
Mais c'est pour tout pareil, c'est la question que je voudrais qu'on traite tout à l'heure du mondialisme, de la mise en place, hein, d'un État mondial. J'ai beau, moi, dans tous mes meetings, dans tous mes dîners-débats, passer une demi-heure, trois quarts d'heure en finale à expliquer aux gens de chez nous, hein, Ils ne le croient pas. Voilà, ils ne croient pas à un état-major international qui tire les ficelles. Mais ce genre de mensonge et tout. Là, j'ai aujourd'hui découpé, hein, dans Télé 7 jours, il y a un papier sur le bouquin de monsieur Alain Duhamel. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. En arrivant, pour un homme de mon âge, c'est absolument incroyable de lire ça, hein. Alors, artiste, question. François Mitterrand l'était-il aussi dans le domaine de la télévision? La télévision le résume bien. C'était un homme de principe qui ne se les appliquait pas.
Ah oui, ça c'est parfait.
C'est une belle formule, ça.
Ça c'est bien, un homme de principe qui ne commence par ne pas appliquer lui-même les principes qu'il voudrait voir appliqués par les autres.
Ça aurait été mieux si Duhamel avait dit ça du vivant de Mitterrand.
Oui.
ce qu'il n'a jamais.
Et puis tout le restant, les questions sont toutes aussi bêtes, sont toutes aussi stupides. Et si on cherche dans ce que j'ai glané simplement aujourd'hui pour venir ici, on s'aperçoit de choses absolument ahurissantes. Il suffit de faire une revue de presse. Hein, je parlais de mon infirmière là tout à l'heure, 53 francs pour deux piqûres qu'elle venait me faire dans la neige et tout. Eh bien, Monsieur Delors vient de toucher 600 millions de francs lourds par la Commission européenne. Quelle Commission européenne? Au nom de qui? Avec l'autorisation de qui? Pourquoi? On n'en sait rien. C'est pour la Fondation européenne de Jacques Delors, qui va recevoir de la Commission de Bruxelles une première subvention de 600 millions de francs. Mais enfin, on nous rebat les oreilles avec juste raison, à longueur de soirée, qu'il y a des gens qui meurent de faim, qu'il y a des gens qui meurent de froid, et cet individu reçoit 600 millions comme premier prêt, donc il va y en avoir d'autres derrière, 600 millions lourds pour une fondation où il va placer encore un certain nombre de copains. C'est-à-dire que demain, les Français peuvent renvoyer à leurs chères études, en ne votant pas pour eux ou en votant contre eux, un certain nombre d'individus socialistes, ils seront reclassés par M. Delors. Et puis sur toute la ligne, c'est ainsi. L'autre papier aussi, là, Monsieur Tapie. Bon, ben il est prouvé qu'il y a eu 101 410 266 francs, hein, de détournés, c'est-à-dire un sacré pactole. Eh bien, Monsieur Tapie ne sera pas poursuivi. Il sera poursuivi pour autre chose, alors que l'enquête du départ prouvait qu'il était faux, usage de faux, recel de faux, abus de confiance, abus de biens sociaux et complicité d'abus de biens sociaux. Ça lui vaut ça, si ça avait été retenu, ce qui était le cas dès le départ, ça lui vaut 10 ans d'emprisonnement ferme. C'est ce que ça vaut pour Dupont, Durand, Serge, Roger, notre ami et autres. Hein, pour 100 fois moins que cela. Eh bien, ce type, on ne sait pas, déjà, ses avocats, on ne sait pas avec quel pognon il les paie. Avec quel pognon il les paie, puisqu'il est failli, puisqu'il est censé ne plus avoir un rond. C'est pas sa paye de député. C'est pas sa paye de député européen. On a le problème.
Tu n'as pas de charité, parce que peut-être que ses avocats travaillent bénévolement. Il y a des avocats qui travaillent bénévolement,
comme tous les avocats d'ailleurs. Bon, cette histoire de l'amendement Malraux, hein, il faut quand même attendre Monsieur Chirac, président de la République, gaulliste, hein, pour donner, hein, exiger et magouiller, parce que le Conseil constitutionnel a refusé jusqu'à présent, magouiller l'octroi de la carte des combattants, hein, aux tueurs des brigades internationales.
On sait d'où ça vient, Roger. Ça a été raconté, je l'ai déjà dit à ce micro, je crois, dans le Figaro du 18 décembre. Monsieur Robert Hue, secrétaire général du Parti communiste, a dit « J'ai beaucoup de sympathie à titre personnel pour Jacques Chirac, qui d'ailleurs me le rend bien, et je vous indique, je vais vous faire une révélation, c'est à ma demande, pour me faire plaisir, qu'il a imposé au ministre des anciens combattants, qui refusait de le faire, l'attribution d'une carte d'ancien combattant aux anciens des brigades rouges, des brigades internationales en Espagne, et il a fait ça pour me faire plaisir à moi, parce que je lui ai demandé pour faire plaisir à mon beau-père, qui est un ancien des brigades rouges, des brigades internationales. Donc, voilà dans quelle situation, dans quel pays on est.
Je suis d'accord, mais bon. Je crois qu'il faut le répéter sans cesse, parce que là, ça dépasse quand même,
c'est une affaire parfaitement scandaleuse, mais là où ça devient complètement délirant, enfin, où il y a un glissement sémantique, c'est que maintenant, c'est présenté dans toute la presse comme l'amendement Malraux. Or, cette décision, quand on en a parlé au début dans les journaux, personne n'a parlé de Malraux. C'est pour essayer d'amoindrir cette affaire pour que ça passe mieux. Alors on met le mot de Malraux parce qu'on l'a mis au Panthéon. Bon, mais ça ne concerne que des communistes. Ça concerne les pires d'ailleurs des communistes, parce que c'était les communistes staliniens qui opéraient avec la GPU en Espagne et qui tuaient les anarchistes, les trotskistes, les phalangistes et les requêtes et ce genre de gens. Et ce sont les pires pourris qui ont pu survivre à ce genre d'affaires, et maintenant ils ont la carte d'anciens combattants. Alors je pense que les gens d'Indochine, d'Algérie et des autres pays où ils ont combattu doivent être écœurés. Et ça, on le doit effectivement uniquement à Jacques Chirac, à la demande de Robert Rue. Ça n'est paru, c'est vrai, que dans le film.
Un auditeur nous fait remarquer une chose qui est tout à fait intéressante. Il dit, les gens, les combattants des brigades internationales qui n'ont pas été déserteurs par la suite, ont déjà la carte d'ancien combattant, comme combattant en France.
Oui, en France.
Donc, ceux qui ont besoin de la carte d'ancien combattant au titre de leur combat dans les brigades internationales, c'est la preuve qu'ils ont déserté ensuite.
Oui, parce que la guerre d'Espagne était avant la guerre de 39-45.
Voilà. Donc cet auditeur demande si le CNC ne peut pas entamer des démarches, au moins faire une enquête.
Mais de toute façon, le CNC a envoyé des pétitions à signer à travers toute la France. Nous sommes submergés, j'en suis très content, aujourd'hui justement, où nous demandons le Sacre National des combattants qui regroupe dans ses rangs plusieurs milliers de vétérans des guerres 39-45 et des campagnes d'Indochine et des Algériens, s'indigne de la décision scandaleuse du président de la République d'accorder la carte du combattant aux mercenaires de la brigade internationale qui ont servi entre 36 et 39 la cause du communisme stalinien pendant les guerres civiles espagnoles. On connaît aujourd'hui les résultats de cette expérience marxiste, utopie qui a ensanglanté et ruiné une grande partie de l'Europe pendant trois quarts de siècle. Le CNC demande à tous les combattants de toutes les guerres de dénoncer cette ignominie, véritable insulte à la mémoire de tous nos compagnons d'armes qui ont donné leur vie dans leur lutte contre les barbaries totalitaires pour que la France vive libre. Le CNC demande à M. Pasquini, ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre, qui lui a été un vrai soldat lors de la campagne de libération de la France par l'armée d'Afrique, de se montrer digne de son passé et d'user de son autorité pour obtenir l'annulation de cette mesure inadmissible.
Alors, il y a une autre question qui se pose. Si aujourd'hui un requêté survivant se présente et demande cette carte d'ancien combattant, comment on va lui refuser? Est-ce qu'il y a encore, d'après vous, Emmanuel Ratier, des survivants des requêtés en France?
Il semblerait qu'il y en ait deux, oui.
Ouais. Ça serait intéressant qu'il pose la question, au moins. Un auditeur demande, et effectivement ça m'a paru énorme aussi, c'est bien 600 millions de francs actuels pour la Fondation européenne de Delors. Hein, Roger?
J'attends, je vais reprendre la fiche, c'est une fiche du Figaro. Contrairement à la Fondation européenne de Jacques Delors, qui doit recevoir de la Commission de Bruxelles une première subvention de 600 millions de francs.
Voilà, c'est
600 millions de francs.
Alors, ça paraît effectivement énorme, mais je vous rappelle qu'aujourd'hui même, on a appris que M. Petria, ancien président de la Mutuelle des fonctionnaires, c'est bien ça ?
La GMF.
De la GMF. Et qui avait signé, qui s'était porté caution auprès d'escrocs pour 6 milliards de francs. 6 milliards de francs. C'est pas 600 millions. C'est 6 milliards de francs. C'est-à-dire 10 fois plus.
Lourd.
De francs lourds. 600 milliards de centimes. Eh bien, ce monsieur vient de bénéficier d'un non-lieu parce qu'on a reconnu qu'il avait agi, en fait, par naïveté. Effectivement, comme il a signé ça pour des escrocs, on dit qu'il a été naïf. Il est surtout, c'est peut-être pas le naïf aux 40 enfants, mais c'est le naïf aux 40 000 frères, parce que c'est un des grands caïds de la franc-maçonnerie en France, et on peut dire que ça, c'est un non-lieu très fraternel.
Oui. Ouais. Mais là, pour en revenir et peut-être en terminer sur l'affaire de l'amendement dit Malraux, il y a quand même 60 députés RPR et EDF qui ont déposé un amendement, il faut 60 noms pour déposer un amendement demandant que cela soit supprimé. Et les trois quarts de ces gars ont eu des appels téléphoniques personnels de Chirac leur demandant de retirer leur signature. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Conseil constitutionnel ne sait plus où il en est des 60 demandes, parce que certains ont enlevé leur signature et d'autres, par dépit, l'ont rajouté. Ce qui prouve que tout va bien dans les rangs de la majorité. Mais tout est exactement pareil. Ça ne fait que croître et embellir. Alors après l'amendement dit Malraux, voilà une dépêche de l'AFP d'aujourd'hui, Paris, 8 janvier. Le Conseil des ministres a décidé mercredi la création d'un Haut Conseil de la mémoire combattante, destiné, selon le président Jacques Chirac, à réhabiliter les valeurs qui fondent l'histoire de notre République et dont les Français ont besoin. placé auprès du président de la République, ce Haut Conseil suscitera ou formulera des propositions destinées à sauvegarder la mémoire des guerres et des conflits contemporains, à préserver les valeurs du monde combattant et à lutter contre le négationnisme. Mais ces gens sont des fous. Ils doivent se lever la nuit en hurlant, en se restant au pied du lit. Voilà. Ce pays est en train de mourir. Hein, des histoires vieilles de 50-60 ans qui les préoccupent. Par contre, dire la vérité sur le communisme, ça ne les préoccupe pas.
Il y a quand même une autre chose qui les préoccupe. Enfin, Chirac n'est pas préoccupé que par ça. Je te rappelle que la semaine dernière, il s'est quand même penché sur la question des chiens de clochards, en demandant que des mesures soient prises pour que les chiens des clochards soient accueillis, quand les clochards sont accueillis dans des centres d'accueil, que leurs chiens soient accueillis dans des chenils spécialisés. Alors, moi aussi, je suis tout à fait d'accord pour ça. Mais je me demande si, dans la situation actuelle, c'est vraiment le rôle du président de la République. La semaine d'avant, c'était l'entrée des beurs dans les boîtes de nuit qui le préoccupait. Maintenant, c'est la présence des chiens de clochard dans les refuges.
Et puis les immigrés de Saint-Bernard.
Et puis, il a écrit aux immigrés de Saint-Bernard, c'est à peu près le travail, ça, du commissaire de l'arrondissement.
La lettre que je lui ai faite en présent, où je dis, mais enfin, veillez quand même à ce que vos conseillers ne vous fassent pas dire n'importe quoi. Parce qu'ils lui font dire n'importe quoi, parce qu'il est capable de dire n'importe quoi et de lire n'importe quoi. Si par malheur, avant d'aller au micro, il discute avec sa fille, c'est tout juste, il va pas arriver en slip comme Madonna, quoi. Enfin, mais j'exagère à peine. Mais enfin, si on se penche un peu sur l'entourage de ce type, on peut se poser des problèmes aussi. On peut quand même se poser des problèmes. Il y a beaucoup de choses qui ne tournent pas rond. Et là, dans le communiqué que j'ai déjà commencé à lire, alors le Grand Conseil, le Haut Conseil de la mémoire combattante, ça va faire encore des planques pour un tas de mecs qui vont être payés à rien foutre. Hein. Il sera composé du Premier ministre, des ministres de la Défense, des anciens combattants, du ministre de l'Éducation nationale, de la Culture, de l'Intérieur, d'un membre du Conseil économique et social, de deux membres désignés par l'Institut de France, deux autres par l'Office national des anciens combattants, et de 11 personnalités qualifiées. Qualifiées en quoi? Qualifiées par qui? Recrutées par qui? Ayant quoi comme décoration? Hein? Mais c'est vraiment la mainmise de l'État sur...
Est-ce que tu as remarqué une chose? Ça s'appelle le Conseil de la mémoire combattante.
Oui.
C'est le CMC.
Oui, oui.
À ne pas confondre avec le Cercle National des Combattants qui est le CNC. Que tu connais peut-être.
Alors il y a une autre aussi dépêche de l'AFP. Aujourd'hui c'était très riche, il y en avait peu, mais toutes celles qui tombaient, elles valent d'être conservées et d'être encadrées. Hein. Alors une cinquantaine d'ouvrages à caractère politique nettement orientés à l'extrême droite ont été retirés du CID, du CDI, Centre de documentation et d'information du lycée Edmond Rostand de Saint-Ouen-l'Aumône, Val d'Oise, à la demande d'enseignants. Ceux-ci, qui ont constitué un collectif, ont alerté les parents, le proviseur, le rectorat, l'inspection académique, les associations antiracistes et les médias. Ils demandent une enquête administrative pour découvrir comment et sur ordre de qui ces ouvrages ont été acquis par le CDI. Alors, parmi les ouvrages incriminés figurent notamment... selon le collectif, un essai sur Hitler, dangereux par ses omissions, notamment de l'Holocauste et des millions de morts de la guerre. Alors, c'est un bouquin de... Il s'agit du livre « Hitler et ses généraux » de Raymond Cartier, de Paris Match. Alors, tout le monde sait bien que Raymond Cartier est un redoutable négationniste. Mais enfin, mais où va-t-on? C'est de la délation pure.
Est-ce qu'il y a le livre de Claude Reichmann dans ça? Parce que j'ai découvert hier, en écoutant l'émission de Claude Reichmann, que son livre sur la sécurité sociale est un livre qui est apparemment un livre néo-nazi, puisqu'il a été condamné par RTL, qui est un des parangons des vertus républicaines. Enfin, on sait bien que ça incarne à la fois l'intelligence, la culture et la moralité, cette station de radio. Donc, a été dénoncé comme un livre appartenant à la mouvance fascisto-néo-nazi. J'ai écouté Claude hier racontait ça, et je dois dire que il a expliqué qu'ayant entendu cette imbécilité noirâtre lui ayant été rapportée par un auditeur de Radio Luxembourg, de RTL, il est allé demander réparation, et naturellement, le patron d'RTL, enfin pas le patron, mais le chef de l'information d'RTL, lui a juré, croix de boule, croix de fer, qu'il aurait réparation, et par exemple, pour réparer, qu'on allait l'inviter dans une émission sur la sécurité sociale, comme expert de la question, ce qui est le cas, et il pourrait parler et présenter son livre. Et effectivement, il n'a plus entendu parler de rien, bien entendu, et plusieurs mois plus tard, on l'a invité à un débat sur cette question de la sécurité sociale, débat au cours duquel il devait être confronté à d'autres personnalités, et la veille, plutôt le matin même du débat, on lui a téléphoné en disant « En raison de l'actualité, ce débat est annulé et remplacé par autre chose, donc ce n'est pas la peine de vous déranger ». Alors le soir, il a quand même voulu écouter le débat pour voir quelle était l'actualité aussi urgente qui justifiait qu'on supprime un débat sur la sécurité sociale en ce moment. Et il a découvert que le débat était bel et bien sur la sécurité sociale, mais qu'on avait remplacé Claude Reichmann, qui est un contempteur de la sécurité sociale telle qu'elle est gérée aujourd'hui, par le patron actuel de l'organisation. C'est-à-dire que, effectivement, bon, alors il en était étonné, Claude, mais moi, je suis étonné qu'il soit surpris, parce que je connais son intelligence brillante, et je crois pas un seul instant qu'il a pu croire à la bonne foi de ces gens-là. Enfin, il suffit d'écouter 10 minutes de journal sur RTL à n'importe quelle heure de la journée pour voir ce que sont ces journalistes-là. Voilà.
Mais
il faut
là,
pas s'en étonner.
Là aussi, les détecteurs de choses bizarres dans les bibliothèques, là aussi. Alors, ils ont fait supprimer aussi un livre présentant la Révolution française comme une explosion de barbarie, et un autre à la gloire du colonialisme, une œuvre hautement civilisatrice, et puis aussi une histoire de France de Jean-François Kiap, xénophobe et révisionniste.
Le pauvre
Jean-François. Attends, mais c'est pas le meilleur arrive. Alors, qui se mêle de la question? Et pour quelle raison l'Association des travailleurs marocains en France a, dans un communiqué, déploré la présence dans ce CDI d'ouvrages faisant les os de l'antisémitisme.
Ah, ça, c'est pas mal.
Du pétinisme, contenant des propos révisionnistes et faisant l'apologie du fascisme et du colonialisme. Oui, l'Association des travailleurs marocains en France, qui s'inquiète de la montée de l'antisémitisme en France. Non, mais combien ils ont touché, cela? Non, mais on peut se poser la question. Qui a été les dénichés? Qui leur a proposé un chèque pour qu'ils fassent ce communiqué? Enfin, et puis tout est à l'avenant, comme ça, tout est à l'avenant. Hein. Et puis alors, cette propagande est d'autant plus dangereuse qu'elle vise un public d'adolescents. La présence de ces livres représente pour les élèves une pression idéologique contraire à la neutralité du service public. Mais ils nous prennent vraiment pour des cons, quoi. Non, mais vraiment, ils nous prennent pour des billes, quoi. Monsieur Harlem et tous ces coquins, hein, monsieur Fodessila, porte ouverte dans les lycées, vont raconter n'importe quoi, et le contraire de la vérité de préférence, hein, et on vient nous parler de la neutralité, du service public. Mais je crois que jamais on a pris les Français pour des imbéciles.
Bah, apparemment, ça ne les gêne pas.
De cette façon.
Apparemment, ça ne les gêne pas. Bon.
Et tous ces gens qui vont au secours du pouvoir. Bon. Avant les préfets, bon. Ils étaient aux ordres, ils le sont toujours et ils le seront toujours. Mais ils ne se croient pas obligés, pour se faire bien voir du pouvoir, de faire des communiqués. Alors là aussi, c'est l'AFP, je n'invente rien, malheureusement. La préfecture de Bas-Rhin a relativisé lundi le phénomène des voitures brûlées dans l'agglomération de Strasbourg à la suite de l'incendie de 29 véhicules depuis le début de l'année. 29 véhicules depuis le début de l'année. Nous savons que 29 voitures ont été brûlées entre le 1er et le 6 janvier. La période des fêtes est toujours délicate, a déclaré le préfet Patrice Magnier lors d'une conférence de presse. Entre le 17 décembre 1994 et le 6 janvier 1995, a ajouté le préfet, 42 véhicules ont été incendiés contre 53 pour la même période de l'année suivante et 46 pour le 12 décembre 1996 au 6 janvier 1997. 400 véhicules ont été incendiés en 1996 contre 452 en 95 et 425 en 1994. La chute est de 12%. Non mais, c'est Elsa Popine, hein. C'est Elsa Popine. Le préfet s'est refusé à nommer les quartiers touchés par ce phénomène afin de ne pas créer une émulation.
C'est effrayant. Bon, ben Roger, merci de cette revue de l'actualité qui, est, faute d'être réconfortante, est au moins roborative. Maintenant, on va... Comment dirais-je ? J'ose à peine dire essayer d'identifier les responsables. Mais on va se pencher sur un livre que Emmanuel Ratier vient de publier. Emmanuel Ratier, il reçoit des manuscrits. C'est un homme vénard, il reçoit des manuscrits tout prêts, tout... Il n'a plus qu'à les publier. Moi, ça m'arrive peu. Ça s'appelle Au cœur du pouvoir, enquête sur le club le plus puissant de France. Alors là, je dois dire, moi j'ai eu la maquette de ce livre hier, j'ai mis le nez dedans et je n'en suis pas encore revenu. Car je vais vous dire, mes bons amis, que tout ce que j'entends dire et tout ce que je dis moi-même depuis bientôt 30 ans sur les lobbies, les coteries, la maçonnerie, les Bilderberg, les... Comment dirais-je? Qu'est-ce qu'il y a encore dans le même genre?
La
trilatérale, etc. Ça n'est rien. Ça n'est rien du tout à côté du formidable, du fantastique instrument de pouvoir et de totalitarisme, alors on peut dire de dictature absolue, que constitue ce club que je découvre à travers le livre publié par Emmanuel Ratier aux éditions Facta. Le club le plus puissant de France qui s'appelle le club Le Siècle. Alors, j'en avais entendu parler, bien entendu, mais je n'avais jamais mesuré à quel point cette organisation, ce club, ce cénacle, rassemble tout ce qui compte en France et dans quelles conditions ça fonctionne. Alors, j'ai demandé donc à Emmanuel Ratier de venir nous parler de ça. Je crois que c'est un livre, je le dis, absolument indispensable à la compréhension des événements qui se déroulent chaque jour dans ce pays. Quand on a lu ça, on commence à comprendre les liens, les relations, les systèmes de passe-moi le rhubarbe, je te passerai le séné, les escaliers dérobés, les portes ouvrant sur des carrières. On commence à comprendre pourquoi certaines personnes, je le dis parce que c'est vrai, épousent certaines autres personnes, ça va jusque-là. Car c'est une organisation, une association, une véritable secte, disons le mot, au sein de laquelle on se marie, on se coopte, on fait rentrer ses enfants, on choisit ses collaborateurs, on désigne les gens qui ont des responsabilités politiques importantes. C'est absolument stupéfiant. Alors, Emmanuel, première question, la fondation du siècle, qui est l'homme qui est à l'origine de cette... Moi, j'ai envie de dire de cette secte, parce que c'est exactement ça.
Bon, moi, je dirais pas ça, parce que je suis toujours mesuré, très mesuré, peut-être me diront certains, et que je m'appuie toujours sur des documents...
Si les races existaient, on dirait que c'est parce que vous êtes normand, mais comme les races n'existent pas, on ne peut pas s'expliquer.
Le siècle a été fondé en 1945, en fait, en 1944, ça a été créé... par un petit groupe de personnes qui avaient eu un rôle qui pour la plupart ont fait partie de l'appareil d'État sous Vichy et qui pour la plupart ont rallié une certaine résistance, exactement sans doute de la même manière qu'on peut dire que François Mitterrand a fait de la résistance. C'est-à-dire que Stéphane Denis, bon, le fondateur du siècle s'appelle Georges Bérard-Quellin. C'est un pseudonyme d'ailleurs, il s'appelait Bérard, il a repris le nom en même temps de sa mère ou de sa grand-mère. Bon, et Stéphane Denis à sa mort dans le quotidien de Paris, il a dit qu'il était sorti, Georges Bérard-Quellin était sorti de l'occupation résistant comme 99% des Français. Bon, c'est-à-dire que vous prenez la biographie officielle de Monsieur Bérard-Quellin, qui était publiée dans le Ouzou, vous prenez la biographie qu'il avait publiée lui-même, parce qu'il dirigeait un énorme service de documentation avec des lettres confidentielles extrêmement bien informées, donc il avait fait sa biographie. Il a donné une ou deux interviews. C'était un homme très secret, donc il ne disait jamais rien. Bon, et il indique par exemple qu'il avait publié un bulletin qui s'appelait « La correspondance de presse ». Et il indique que c'est paru en 1941-42. Bon, dans le livre, on publie un numéro du 26 juin 44.
Donc ça suppose que... ça a paru pendant toute l'occupation.
En fait, ça a paru pendant toute l'occupation. Bon, alors...
M. Bérard, qui est là, c'est un personnage tout à fait fascinant, le portrait que vous en donnez, qui est c'est un homme tout en nuance, parce que on s'aperçoit, c'est le passe-muraille. Hein.
C'est un homme d'une puissance exceptionnelle. Bon,
mais en plus d'une obscurité brouillardeuse.
Ah, pour moi, il ressemble assez au colonel Bogritz dans Apocalypse Now. C'est l'homme vraiment au fond de la rivière,
au fond de la jungle, au bout de la rivière.
Bon, qui dirige tout, parce que c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent et qui avait su créer un réseau absolument extraordinaire.
Alors il a une tête pas possible, il a une tête de gourou avec un crâne rasé, des yeux très perçants. Et c'est, d'après ce que vous dites, c'est un tout petit bonhomme.
Tout petit bonhomme. Personnalité, moi je l'ai rencontré une fois quand j'étais tout jeune journaliste. C'était un homme absolument fascinant, qui avait un regard absolument incroyable.
Alors, il faut donner les titres qu'il publiait, c'était la
correspondance de la presse. Il a monté, en fait, bon, c'est pas compliqué, c'est très simple. Bon, il a monté deux groupes. Il a monté un groupe qui s'appelle Le Siècle. Ce groupe est devenu, on en parlera tout à l'heure, le club le plus important et le plus... Ça lui a survécu, puisqu'il est décédé en 1990, et que ça fonctionne toujours très bien. Bon. Et puis d'un autre côté, il a monté un empire de presse polycopié, on peut dire, constitué à partir d'une documentation extraordinaire qu'il avait amassée, et qu'il amassait en permanence, c'est-à-dire qu'il avait, ils ont toujours de l'ordre de 70 à 90 documentalistes qui tous les jours dépouillent l'intégralité du journal officiel, par exemple. C'est-à-dire que toutes les promotions de la Légion d'honneur, on prend la fiche des gens, ils ont plusieurs centaines de milliers de fiches, je pense de l'ordre de 500 ou 700 000, et on rajoute qu'ils ont... Oui. Ça fait très envie. Bon, et puis, il a monté toute une série de publications. Il y en avait une pour la correspondance de presse, la publicité. À une époque, il en a fait pour certains secteurs de l'économie. Et il publiait la correspondance économique. Et il a monté le bulletin quotidien. Donc les initiales donnent BQ, qui sont les siennes, Bérard Quélin, parce que c'était un homme qui était quand même... Je ne vais pas dire vaniteux, mais enfin qui était un peu mégalomane, parce que... Il avait des informations, et il a toujours, on trouve toujours dans ses bulletins, des informations absolument extraordinaires, c'est-à-dire que on y apprend les nominations dans l'administration et dans les grandes sociétés françaises, qu'elles soient nationalisées ou non, au Quai d'Orsay, etc., on les apprend en général...
Avant les intéressés.
36 à 48 heures avant que ça se produise, mais il y a des fois où on l'apprend 3 mois avant, notamment pour le Quai d'Orsay, où on sait que telle personne sera désignée. Et la meilleure preuve, bon, il se trouve que dernièrement j'ai rencontré quelqu'un qui avait travaillé au Palais de Justice de Paris avec le président d'une des cours. Bon, et ben le président téléphonait à Bérard Quélin pour savoir qui allait être nommé. Bérard Quélin était plus au courant que les professionnels de la chose. Bon, et ça, il le devait, ces informations absolument extraordinaires, il les devait en grande partie à une équipe de journalistes qui ont travaillé chez lui, mais également au Club Le Siècle, tout simplement parce qu'il avait les meilleurs dans un certain style, c'est-à-dire l'élite française.
C'est-à-dire qu'il avait trois outils en quelque sorte. Il travaillait d'une part comme les services spéciaux, comme les services de documentation des services de contre-espionnage, d'espionnage, qui, les Américains disent, tout est écrit, tout est publié. Donc il suffit de tout lire pour tout savoir. Voilà. Alors il travaillait comme ça, il disait pratiquement tout, enfin son équipe de documentalistes. Il avait des journalistes. Alors là, vous pouvez donner quelques noms, parce que un rassemblement assez hétéroclite.
C'est un bottin absolument incroyable, qui va aussi bien de... D'ailleurs, bon, il n'avait pas de... Même si lui se situait dans la mouvance de gauche du Parti radical...
Il employait des gens aussi bien de droite que de gauche, ça n'avait absolument aucune importance pour lui. Bon, et il a employé des centaines et des centaines de personnalités de la presse parisienne. Je dirais que ça allait de Jean Daniel, futur directeur du Nouvel Obs, bon, à quelqu'un que tout le monde connaît ici, qui est Christian de Lamazière, bon, qui est l'auteur du Rêveur casqué, et qui, après la Seconde Guerre mondiale, etc., bon, bah, il avait besoin de travail, il est allé le voir, l'autre l'a pris. Bon, et il faisait travailler les gens, mais il y a des centaines et des centaines de journalistes qui sont passés, qui d'ailleurs après en général se sont retrouvés. C'était un excellent, bon, c'est d'ailleurs toujours un excellent centre de formation, c'est-à-dire qu'on y passe, on est assez mal payé, donc les gens ont tendance à s'en aller, mais ils ont toujours une certaine reconnaissance parce que ça leur donne une bonne carte de visite pour le travail, et donc ils se retrouvent à la direction de la communication d'entreprise, dans des journaux, dans des radios, et ils continuent à approvisionner en renseignement et en information la Société Générale de Presse. Alors, il y a une chose, c'est que il faut que vous sachiez que les bulletins dont je parle, personne, enfin, mis à part, je pense, les journalistes qui sont dans le studio, bon, on en a vu de temps en temps, mais les gens qui nous écoutent ne les verront jamais, sauf si ils sont milliardaires ou PDG, puisque je vais vous donner les tarifs actuels. Le bulletin quotidien qui paraît 5 jours par semaine, qui est un bulletin polycopié, agrafé, tapé à la machine.
Il faut dire ça, c'est même pas des photocopies, c'est même pas de l'impression informatisée.
Oui, c'est polycopié.
C'est de la polycopie comme on en faisait il y a 20 ans.
C'est un ampère de polycopie, ben, ça vaut 29 380 francs, oui. C'est-à-dire 30 000 francs par an.
Ça, c'est un avis.
C'est vraiment le journal le plus cher de France.
Un avis, c'est ceux qui disent que le libre journal est trop cher.
Oui. Hein? Alors, c'est 26 700 pour la correspondance économique, 19 500 pour la correspondance de la presse, mais il est vrai que ce sont des outils extrêmement utiles pour les gens qui peuvent les lire. Bon, inutile de dire qu'en général, par exemple, dans un grand journal ou dans les ministères, on prend toujours un ou deux abonnements, puis après,
la photocopieuse
fonctionne, parce que c'est quand même pour des tarifs extrêmement élevés. Voilà.
Alors, disons qu'il y a ce moyen de... Enfin, c'est deux moyens d'information qui sont la collecte des informations publiées dans les journaux officiels ou les revues techniques, les revues spécialisées, etc. La deuxième chose, c'est l'énorme vivier de journalistes qui rendent en quelque sorte ce que le BQ leur a donné. Et puis la troisième source, alors, c'est ce fameux Club Le Siècle.
Oui, alors le Club Le Siècle, c'est la... Je ne sais pas comment dire. Bon, c'est la super élite technocratique française. Bon, si vous voulez, c'est... on parle souvent, bon, pour les organisations mondialistes, par exemple du Bilderberg Group ou de la Trilatérale, ben c'est la Trilatérale française. C'est-à-dire qu'il y a une sursélection des élites. Je ne dis pas que ça soit bien ou non. J'appelle les élites, c'est-à-dire les gens qui se trouvent dans le sens de Pareto, c'est-à-dire les gens qui se trouvent par exemple à la direction des grandes entreprises françaises, les gens qui se trouvent à la direction des principaux groupes bancaires, les principaux hommes politiques français, les principaux journalistes, mais c'est même pas les journalistes. C'est-à-dire que vous avez Jean-Marie Colombani du Monde, c'est-à-dire le directeur de Libération qui est Serge Julie, Franz-Olivier Gisbert, qui est le directeur de la rédaction du Figaro. Vous n'avez pas le journaliste de base, Jean Daniel du Nouvel Obs, mais vous n'avez pas du tout un petit journaliste. Vous avez quelques grands directeurs de journaux de province, style la Nouvelle République du Centre-Ouest ou des choses comme ça.
Bon. Est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière, parce que vous rappeliez tout à l'heure que ce club a été formé en 1944, par des gens dont certains avaient appartenu au pouvoir de Vichy, aux allées du pouvoir de Vichy. Est-ce qu'on peut donc dire...
Bon, peut-être, c'est expliqué dans l'ouvrage, bon, qui jouait un double jeu, comme beaucoup de gens ont joué,
quelles que soient les raisons,
avec des dates qui ont pu évoluer en fonction de la manière dont les événements tournaient.
Mais moi, je trouve qu'en lisant votre livre, c'est la question que j'avais posée. Étant donné ses origines, ce club, étant donné sa constitution actuelle, et étant donné ses modes de fonctionnement et le résultat de ses activités, moi ça me fait irrésistiblement penser à un très grand mythe du XXe siècle, qui n'est peut-être pas du tout un mythe d'ailleurs, et qu'on appelait la synarchie. Alors est-ce que c'est une organisation synarchique?
certaines personnes emploient le terme. Bon, moi, actuellement, je me penche sur la synarchie, donc c'est un sujet que je ne connais pas assez pour en parler. Bon, je pense que si on dit que la synarchie, c'est une espèce de technostructure qui est destinée à contrôler le pouvoir pour l'intérêt des gens, bon, c'est une évidence. Vous avez, je pense, à peu près 150... Il faut, bon, le siècle comprend à peu près 550 à 600 membres. Bon, viennent ensuite... vous avez 200 invités, enfin 150 à 200 invités. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces invités ne sont pas des invités. Il y a un système de cooptation qui est extrêmement complexe, c'est-à-dire que vous avez des milliers de personnes qui aimeraient y rentrer, et il y en a une quinzaine par an qui y rentrent. Bon. Et rien que pour être invité, ça veut dire déjà qu'on a fait l'objet d'un vote. Et en réalité, on vous teste pendant plusieurs années, vous participez à des dîners, et on vous teste pour savoir si vous êtes suffisamment intéressant. On vérifie que votre carrière se déroule d'une manière correcte, c'est-à-dire que vous occupez des postes extrêmement importants, et si vous n'occupez pas des postes suffisamment bons, on vous vire. Alors, l'exemple type, Nicolas Bazire. Voilà, Nicolas Bazire, directeur de cabinet de Balladur, s'est retrouvé invité, donc il y a eu un premier vote favorable, donc il est venu pendant plusieurs mois, et puis... quand on a vu que Balladur perdait et que c'était Chirac qui prenait la mise, eh ben, ils ont fait un vote et ils l'ont refusé. Et depuis, ils essayent de le récupérer parce qu'il est rentré comme associé gérant chez Rothschild. Bon, donc là, hop, il retrouvait un bon poste. Bon. Et donc, il y a d'autres gens. Par exemple, si mes souvenirs sont bons, je crois que Maison Rouge, le PDG d'IBM, qui était le plus haut français dans une multinationale américaine, Maison Rouge avait été refusé au départ, et puis ils ont réussi à le récupérer au bout d'une dizaine d'années. Mais ils commettent assez peu d'erreurs. C'est-à-dire que vous avez 150 inspecteurs des finances, ce qui est le gratin de l'ENA, c'est la super botte, c'est les gars qui peuvent se permettre n'importe quoi, c'est-à-dire Monsieur Jean-Yves Abrère, Jean-Claude Trichet, des gens comme ça, c'est-à-dire qu'ils commettent le plus gros crack qu'on ait jamais produit en France avec le Crédit Lyonnais, qui est 150 milliards au minimum de francs lourds, et il n'y a pas un gars qui est inculpé dans l'affaire. Ils ont toujours leur logement de fonction, leur voiture, leur salaire, leur retraite mirifique, leur boy, etc. Bon, c'est le super pouvoir en France, c'est l'inspection des finances. Bon, ils sont détachés dans les grandes entreprises, etc. Ils se font mettre en disponibilité. Bon, vous en avez à peu près, je pense, 150 qui sont en activité. Je n'ai pas fait le compte, mais je pense qu'il y en a à peu près 110 qui sont membres du siècle.
Ouais. Oui, il y a une chose qu'il faut dire, que vous ne l'avez pas précisé, c'est que ce terme d'invité, donc vous nous avez expliqué qu'il y a 600 membres, 5 à 600 membres du siècle, et il y a 200 à peu près, 200 personnes qui sont invitées. Mais il faut bien comprendre que cette invitation, c'est très mystérieux d'ailleurs, ce n'est pas du tout comme dans un autre club ou comme en maçonnerie, par exemple, quand on fait des tenues blanches. Ce n'est pas du tout des gens qui sont invités à venir prendre la parole pour faire des topos, pour faire des conférences ou des exposés. Parce que les réunions du club se passent pas du tout comme des réunions de formation. C'est vraiment du lobbying pur.
Ah, mais c'est un truc qui est absolument sidérant. Bon. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a, par exemple, il y a de nombreux francs-maçons qui y sont, mais ça n'a rien à voir avec ça, même si le système de fonctionnement est un type de fonctionnement extrêmement secret. C'est-à-dire que c'est quand même une organisation dont l'existence, en réalité, a été dévoilée en 1977, a été dévoilée par l'Humanité. Jusque-là, il n'y a pratiquement aucun article de presse qui soit jamais paru dessus. Bon. Et il y a moins d'une cinquantaine d'articles, peut-être une trentaine d'articles, qui sont parus, qui ont été consacrés au siècle. Et jusqu'en 77, c'est-à-dire qu'ils ont été fondés, ça s'est fondé en 44, et jusqu'en 77, ils ont réussi à fonctionner sans qu'il y ait jamais un article de presse.
Pendant plus de 30 ans, voilà. Une organisation qui rassemble les 300 ou 400 ou 500 ou 600 plus importantes personnes de l'appareil...
Décideurs français.
Des décideurs, voilà, politiques, hommes d'affaires...
Personne n'a jamais rien dit sur eux.
Et aux fonctionnaires, personne n'en
a parlé. Mais vous prenez par exemple, il y a un bouquin assez intéressant là qui est paru le mois dernier. Vous avez le dictionnaire des intellectuels français. Bon, qui est une série, c'est un dictionnaire avec des entrées, il y a des biographies, on en pense ce qu'on veut, il y a des gens qui disent que c'est écrit par des gens de gauche. Bon, il y a une notice sur le siècle, elle est écrite par Jacques Julliard qui est membre du siècle.
Oui.
Bon, quand vous avez un article dans un journal sur le siècle, par exemple dans l'Express, il est écrit par un membre du siècle. Donc ils ne sortent que ce qu'ils veulent bien sortir.
Donc votre livre, c'est la première fois qu'un...
Ah, il n'y a jamais eu d'article.
Ah, c'est peut-être un membre du siècle qui l'a écrit d'ailleurs, après tout, vous n'en savez rien. Non.
Ça c'est tout à fait possible. Mais il n'y a jamais eu d'article, il n'y a jamais eu d'ouvrage qui soit paru sur la question. Bon, et d'ailleurs, préventivement, la direction du siècle m'a menacé de procès, et je publie la lettre, si on le publiait, parce qu'ils estiment que c'est une atteinte à l'intimité de la vie privée. Or, en réalité, l'ouvrage démontre que c'est absolument pas une atteinte à la vie privée, puisque les gens ne sont pas sélectionnés pour leur qualité personnelle, ils sont sélectionnés exclusivement parce qu'ils ont du pouvoir. C'est-à-dire que si vous perdez votre travail, ou que vous partez à la retraite, vous êtes viré.
Ça, c'est un des aspects tout à fait fascinants de ça.
Toute une série de personnes, les documents sont publiés, vous avez Antoine Ruffnac, qui est le président du conseil régional de Haute-Normandie, et ben, il fait payer sa cotisation par le conseil régional. Alors, qu'on vienne pas me dire que c'est un truc privé.
De la vie privée, bien sûr. Oui, je disais, il y a quelque chose de tout à fait fascinant, c'est que cette machine, c'est, et ça fait tout à fait penser à la fameuse histoire de la tombola au profit des organisateurs de tombola. Parce que, si vous prenez la franc-maçonnerie, la franc-maçonnerie revendique son existence comme outil d'amélioration de la société humaine. Je dis pas qu'ils le font. Je dis que quand on dit aux gens qu'est-ce que la maçonnerie, ils disent c'est un groupe d'hommes qui travaille à l'amélioration de la société humaine. L'Église travaille à l'amélioration de l'homme et à la réalisation du projet divin sur l'homme. Mais le club, le siècle, sert les intérêts des membres du siècle. C'est-à-dire, c'est ce que je dis, c'est la tombola au profit des organisateurs de tombola. Il s'agit d'un lieu de pouvoir qui a pour seul objectif d'attirer vers lui le maximum de dépositaires du pouvoir pour que, par synergie, et c'est en sens qu'on peut parler de synarchie, par synergie, l'accumulation des gens de pouvoir produise un pouvoir supérieur à la somme des pouvoirs représentés.
Je vais vous lire deux petites choses. Bon, il y en a une, ça a été écrit par des gens de gauche. Bon, il y en a une, c'est Actuel, qui est un magazine qui a disparu, qui était publié par des gauchistes dans les années 70-80. Magazine assez intéressant.
Très très bien fait.
Et ils écrivent, c'était Bizot. Bon, et ils ont publié une fois un article sur le siècle. Ils ont fait une colonne dans leur almanach. Alors je vous lis juste le petit passage. Parfois la vie sociale fonctionne réellement comme l'imagine un gauchiste sectaire. Les plus éminents représentants de la classe dirigeante française, des socialistes à la droite et au monde des affaires, se réunissent tous ensemble afin de parler d'eux-mêmes, du pouvoir ou du monde. Cela se nomme les dîners du siècle. Alors, je vous donne un deuxième exemple. Il n'y a qu'une seule personne en France qui est relativement publiée sur le siècle, c'est Jean Botorel, qui avait écrit un ouvrage très intéressant en 1979 qui s'appelle La République mondaine, où il consacre, qui est consacré au giscardisme, et où il consacre un chapitre au club Le Siècle. Il n'y a qu'un chapitre sur le bouquin. Il écrit « Georges Bérard Quellin est au centre d'une toile d'araignée dont il resserre inlassablement la trame. Un gros fil relie tous les hommes de cette assemblée polymorphe, le pouvoir. Les opinions partisanes s'effacent tandis que chacun s'inquiète du déroulement de sa carrière, de la protection de ses intérêts et de la salubrité de ses relations. Par nature, le club de BQ développe une solidarité de puissance et de promotion. » Bon, c'est joliment dit, oui. C'est exactement ce que vous dites d'une autre manière. Je me suis intéressé, bon, j'ai regardé d'autres clubs. Quand vous prenez la franc-maçonnerie, le Rotary Club, le Cercle Interallié, le Lions Club ou des choses comme ça, on vous vire pas quand vous partez à la retraite.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
On vous garde parce que bon, vous venez peut-être moins souvent, mais on vous met pas dehors. Vous devenez membre honoraire. Là, on vous met dehors. Et il y a même, quand vous atteignez la date de 65 ans, ils font des réunions. Par exemple, vous retrouvez en retraite en juillet, vous avez atteigné 65 ans en juillet 97. Eh bien, il y aura une réunion pour savoir si on vous conserve jusqu'à la fin de l'année. Non, mais c'est hallucinant. Ils ne sont non, mais si vous voulez, bon, les noms, figurent dans l'ouvrage la biographie de la plupart des membres.
Ça, j'allais dire, parce que c'est pas du tout un bavardage sur le.
Vous les connaissez tous.
Voilà.
Je veux dire, il n'y a que des gens.
C'est enfin, formidable.
Vous les connaissez tous, vous les connaissez pas tous, mais il n'y a que des gens hyper puissants.
Non, mais on peut l'ouvrir. Moi, on fait un exercice. J'ouvre la page 145. Gilbert Beau. Tout le monde a entendu parler de Gilbert Beau, bon,
et avant,
qui a été la conseillère financière de Tapie.
Voilà,
page 177, Jean-Denis Bredin. qui a été ministre de Mitterrand et qui a été et qui est avocat, qui est un grand avocat, au moins un avocat connu. Page 209, Jean-Claude Colliard. Tout le monde sait
qu'il était le conseiller juridique de Mitterrand.
Voilà, vous comprenez, continue, page 241, Jacques Doufiag.
Ministre, la chose, c'est que, à la différence d'autres organismes ou d'autres clubs, c'est un club qui réunit à la fois des gens de la presse, des gens de la finance, des gens de la politique. Et donc, ça a une extraordinaire.
Des gens de la haute fonction publique. C'est
bien
très
sûr,
important.
Bien sûr.
C'est parce que c'est ça le mécanisme.
C'est-à-dire que ça leur permet de se distribuer le pouvoir. Vous avez, par exemple, je vais vous dire, vous aviez, j'ai pas fait le calcul, mais je dirais qu'il y avait à peu près un tiers du gouvernement socialiste, il y avait un bon tiers du gouvernement de Balladur, et actuellement, vous avez à peu près un tiers du gouvernement actuel. Bon, donc actuellement, vous avez comme membre, vous avez Alain Juppé, donc le Premier ministre, qui en est membre, et puis vous avez les principaux postes. Alors vous avez Charles Millon, ministre de la Défense, Jacques Toubon, le garde des Sceaux, François Bayrou, le ministre de l'Éducation nationale,
le chouchou à Victoria,
Hervé de Charette, le ministre des Affaires étrangères, Michel Barnier, qui est le secrétaire d'État aux Affaires européennes, donc Maastricht, donc toute la mondialisation, Jacques Barrault, le ministre du Travail et des Affaires sociales, Lamassoure, ministre du Budget, Fillon, Poste, Télécommunications et Espace. Bon, et les noms qui sont publiés ici, bon, ça se veut aussi précis que possible, il y en a peut-être d'autres. Bon, nous, j'ai décidé de publier cet ouvrage, bon, j'ai publié ce qu'on avait, ce qui m'était proposé, il n'y a pas de nom qui était inventé. Mais donc vous avez le gouvernement actuel, vous avez la quasi-totalité des gens qui sont importants. Vous n'avez pas Corinne Lepage, secrétaire d'État à l'environnement, ou vous n'avez pas Xavier Emmanuelli, secrétaire d'État, je crois, à l'action humanitaire. Ce ne sont pas des lieux de pouvoir, ce ne sont pas des gens qui contrôlent la finance, qui contrôlent l'État, qui contrôlent, le pouvoir.
Alors un auditeur nous dit, vers 78, Dominique Venner a publié un dictionnaire de la politique à la rubrique Bérard-Kellin. L'auteur le présente comme fondateur du siècle et explique le fonctionnement de ce club. Et cet auditeur raconte que Bérard-Kellin avait traduit Venner en justice et obtenu l'occultation de l'article par une surimpression noire. Cependant, ajoute-t-il, avec une certaine incidence de la lumière, on peut lire le texte et tout savoir.
Il est exact que Dominique Venner, on reproduit d'ailleurs les pages dans les deux pages du titre de la politique, avait consacré une notice à Bérard-Kellin. Bon, et il a consacré une notice à Bérard-Kellin dans laquelle il écrivait que que Bérard-Kellin avait été un collaborateur et il rappelait pas ses titres de résistance. Donc Georges Bérard-Kellin a fait un procès et l'a évidemment gagné. Voilà. Mmh. Il faut savoir que, quand même, Dominique Venner avait trouvé deux témoins qui se souvenaient assez bien de Bérard-Kellin à l'époque, mais comme ces gens avaient été condamnés à 10 ans d'indignité nationale, on a considéré que leur témoignage n'était pas valable.
Bah oui, pour cause, bien sûr. Il y a une question qui est posée par un auditeur qui nous dit, mais est-ce que Mitterrand, Fabius, Rocard, Larcher, Chirac, Séguin, Juppé, Delors, alors pour Juppé, etc., Delors, on a répondu, mais en ce qui concerne Barre, par exemple.
Barre, non.
Non, il n'en est non, pas.
Il n'a pas besoin parce que... Barre est au Bilderberg, à la trilatérale. C'est le rapporteur annuel de la conférence de Davos. C'est quelqu'un... Oui. Raymond Barre est quelqu'un qui travaille au niveau international.
Cela dit, il a été invité en 1994.
Oui.
Vous l'indiquez.
Oui.
Parce que vous donnez la liste de tous les membres et de tous les invités.
En tant que tel, il n'est pas membre. Bon. Si vous voulez, le G7 qui a eu lieu l'année dernière à Lyon, c'était pas du tout un hasard que ça se déroule à Lyon. C'est parce que ça permet de promouvoir Raymond Barre sur la scène internationale. Et Raymond Barre a un rôle certainement beaucoup plus important à l'étranger qu'en France. Bon, Mitterrand en a été membre, mais il en est parti, je ne sais pas pour quelle raison. Il est cité par Jean Botorel dans l'ouvrage La République mondaine, mais dans les listes qui sont publiées à la fin de cet ouvrage, je n'y figure pas. Donc, est-il parti parce que, par manque d'assiduité, parce que si vous venez pas assez souvent, si vous ratez, je crois, 2 ou 3 dîners, vous êtes viré, enfin, c'est extrêmement strict, bon, ou parce qu'il trouvait que ça ne l'intéressait pas, c'est tout à fait possible.
En revanche, Chirac n'est pas non plus, mais je vois qu'il y a Georges Chaudron de Courcelles.
Oui, alors, si mes souvenirs sont bons...
Chaudron de Courcelles, c'est le nom de Mme Chirac,
oui,
le nom
mais
de la fille de Mme Chirac.
Je crois que c'est qu'un oncle, si mes souvenirs sont bons. De toute façon, il y a une notice biographique qui est consacrée à chacune des personnalités qui ont été soit invitées, soit membres du siècle.
Alors, est-ce qu'il y a des communistes?
Alors, il y a quelques communistes. Vous avez Guy Brébant. Mmh. Guy Brébant est personnage de l'ombre. On l'appelait le cinquième ministre en 81. C'était l'homme, c'est un conseiller d'État. C'était le beau-frère, si mes souvenirs sont bons, d'Henri Curiel.
Et Henri Curiel qui a été assassiné. En combien 73
bon, je sais plus. Qui était le coordonnateur de nombre de des réseaux de soutien au mouvement de libération nationale ou mouvement de solidarité avec le tiers monde.
Voilà. Transfert de pognon.
Bon. Et donc Guy Brébant était l'homme qui était chargé de faire la liaison entre les ministres et secrétaires d'État communistes. C'est ce qu'on appelle un hors-cadre, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne se réunit pas en cellule parce qu'on ne veut pas qu'il se fasse repérer, qu'il n'a pas le droit de posséder sa carte du Parti communiste chez lui, etc. Bon, si mes souvenirs sont bons, parce que il y en a quand même, bon, il doit y avoir la biographie de 1150 personnes, donc je ne peux pas me souvenir de tous les noms, vous avez quelques communistes en plus, notamment des membres de la CGT, qui en viennent. Bon, alors inutile de vous dire qu'il n'y a aucun membre du Front National.
C'était la question que j'avais.
Mais c'est pas que.
Je cherche Hollande, je ne vois pas. Non. Il y a Hollard, Hollande, voilà. Holo, mais il n'y a pas Hollande.
Voilà. J'ai raté un repas, voilà, ils m'ont viré.
Tiens, il y a Janico, mais ça ne doit pas être notre ami. Je ne pense pas que ça soit lui.
Bon, alors, vous avez même, d'ailleurs, vous avez également des ecclésiastiques qui en sont membres.
Ah ben ça,
c'est-à-dire
ça.
Que vous avez, par exemple, Henri Madelin.
Oui.
Bon, tous ces gens ont des profils particuliers. C'est-à-dire qu'ils correspondent à la crème politique du conformisme. C'est-à-dire que, pour être très clair, vous n'avez pas Pierre Mauroy, qui était un socialiste, on pourrait dire populiste.
Un peu mal dégrossi.
Voilà. Bon, qui pouvait se boire une chope de
lait. Rachette.
Avec des mineurs. Bon, mais il y a Martine Aubry. C'est un autre genre, si vous voulez. Bon.
Il y a Hollande.
Oui, bah, vous avez François. Vous avez la gauche caviar. Voilà, mais il ne suffit pas d'être de la gauche caviar pour en être. Il faut vraiment avoir du pouvoir. Il y a Pierre Berger. Parce que c'est un gars qui a une certaine surface. Ouais. Des gens de petit niveau ou même de moyen niveau ne les intéressent pas. Puisque de toute façon, actuellement, il y a plusieurs centaines de membres qui ont été acceptés et. Il y a actuellement, d'après les rares indications qu'on a, il y a plus de 200 personnes qui ont été acceptées qui ne peuvent même pas venir depuis plusieurs années parce qu'on n'a pas la place pour les accueillir. C'est-à-dire qu'ils font des dîners, ils sont de l'ordre de 4 à 500, mais ils ne vont pas faire un dîner des 1000. Donc, il y a toute une série de personnes qui, bien qu'étant acceptées, ne peuvent pas venir. Alors, on les fait venir de temps en temps par roulement. Bon. Mais c'est vraiment oui, pour en revenir, bon, excusez-moi, à cette histoire d'église. Bon, vous avez Henri Madelin, bon, qui était le supérieur des jésuites de France, directeur de la revue Études. Donc c'est pour certains, ça dira quelque chose. C'est-à-dire que c'est un intellectuel qui a du pouvoir dans l'église. Bon, mais donc un évêque de base les intéresse pas. Ce sont pas des gens.
Il faut, en réalité, ça réunit le club du siècle réunit des gens qui ont du pouvoir et qui, en quelque sorte,
en désirent plus
et sont prêts pour en obtenir plus à en sacrifier une petite partie. Hein. Ils considèrent que, au fond, leur pouvoir c'est une monnaie et il faut l'investir pour que ça rapporte.
Et ce qui est formidable, c'est que ce club fonctionne alors que le fondateur est décédé. Parce que les gens y trouvent suffisamment d'intérêt pour que ça fonctionne. Ils en tirent sans doute suffisamment de profit. Parce que Vous m'avez demandé tout à l'heure comment ça fonctionnait. Contrairement à tous les clubs, il n'y a pas de conférence, il n'y a pas de conférencier. La seule chose, ça se réduit exclusivement, ils font un dîner par mois. Ils sont, il y a un cocktail au départ, qui dure à peu près trois quarts d'heure, et puis après, ils sont par petites tables de 7 ou 8, avec un modérateur, un président de table, qui en général est membre du conseil d'administration ou un ancien membre, et qui est chargé de faire tourner la conversation. Alors théoriquement, on ne peut pas être placé aux tables où on désire, mais on sait parfaitement que dans certaines occasions, les gens suffisamment puissants qui veulent rencontrer d'autres personnes se font demande à être placés à une table et le sont. Exemple type, c'était ce qui s'était produit en 77 quand l'humanité a révélé, et en fait bon, c'est le Nouvel Économiste qui a été repris par l'humanité, a révélé l'existence du siècle. C'est-à-dire que vous aviez 7 jours après la rupture de l'union de la gauche à l'occasion de des questions sur les nationalisations, Robert Fabre, qui était le président des radicaux de gauche, avait rompu. Bon, ben, une semaine après, il était à la même table que Victor Chapeau, qui était l'homme-lige pour les affaires noires, le cabinet noir de Giscard d'Estaing, avec un certain nombre de grands patrons des grandes sociétés qui devaient être nationalisés si la gauche gagnait. Et Robert Fabre s'est retrouvé médiateur de la République quelques semaines plus tard. Voilà. Bon, un autre exemple qu'on peut citer, c'est, puisque les intéressés eux-mêmes l'ont dit, c'est Franz-Olivier Gisbert est passé de la direction du Nouvel Observateur à la direction de la rédaction du Figaro, ce qui en a surpris plus d'un. Bon, ben, il se trouve qu'il a fait la connaissance de Philippe Villain, qui à l'époque était le bras droit de Robert Hersan. Mmh. Au siècle, ils ont déjeuné, ils ont dîné ensemble, ils se sont revus, et il lui a proposé la botte. Et puis, il y a les pauvres couillons comme nous, qui se disent, mais c'est étonnant, parce qu'on croyait que le Nouvel Obs était à gauche, et le Figaro à droite. Ben, pas du tout. Ils se séparent le pouvoir.
Alors, un auditeur demande si Alain Duhamel, Sinclair et El Kabbach sont membres du club, siècle. Alors,
pour Anne Sinclair y est.
Les Duhamel y sont.
D'ailleurs, comme son mari Dominique Strauss-Kahn. Duhamel.
Il y a
Alain Duhamel
Alain et Olivier.
Et Olivier Duhamel. Ouais. Il y en a, bon, c'est deux frères. Bon, il y en a un qui est sociologue et l'autre qui est journaliste. Il y avait qui d'autre?
Et El Kabbach n'y est pas, apparemment.
El Kabbach, non.
Et Villiers non plus. Voilà, j'ai vérifié.
Ah non, Philippe de Villiers.
Philippe de Villiers, un auditeur nous pose la question, je réponds non. Alors, à propos de Philippe de Villiers, tout à l'heure, une auditrice dit, c'est de très mauvais goût d'avoir dit que Philippe de Villiers était trotskiste. J'ai pas dit que Philippe de Villiers était trotskiste. J'ai dit, en lisant un petit entrefilet du Monde, j'ai dit que la façon dont il était rédigé semblait, pouvait faire croire que le mouvement pour la France était devenu un mouvement trotskiste. Alors je précise, ça n'est pas le cas, bien évidemment.
Ça voulait dire simplement que c'était mal écrit.
Voilà, c'est ça, en gros, c'est ce que je vous
dis. Il ressort quand même de tout ça que tous ces types se placent à tous les niveaux, et comme ils sont pour la démolition des patries, la suppression des frontières et autres, ils préparent déjà leur passage de la nomenclatura française à la nomenclatura européenne et au-delà à la nomenclatura mondialiste. En définitive, tout ce qu'ils racontent, c'est du vent. Ce qu'ils voient, c'est leur poste, leur place, leur prébende. C'est tout.
Oui. Moi, je redis ce que j'ai dit en introduction de cet entretien. On ne peut plus, à partir d'aujourd'hui ou de demain matin, prétendre parler de politique en France sans avoir le bouquin de Ratier, enfin le bouquin présenté par Emmanuel Ratier, Au cœur du pouvoir. Si on n'a pas ça sous les yeux en permanence pour dire mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi M. Beau Bernard, inspecteur des finances, a-t-il fait ça, eh bien on ne peut pas comprendre les mécanismes, il faut aller là-dedans et voir que M. Beau Bernard, inspecteur des finances, est membre du club Le Siècle, et que par conséquent, ça lui permet de rencontrer M. Jean-Claude Colliard, M. Laurent Cohen-Tanuji, avocat, M. Pierre Lafitte, qui est polytechnicien, M. Xavier de la Fournière, qui est un grand financier, M. Ladrette de la Charrière, qui est un des grands caïds de la presse en France, avec le groupe...
Oui, mais pas seulement de la presse, bon, qui est le numéro un de l'immobilier maintenant, parce qu'il a racheté un parc immobilier absolument colossal pour 3 milliards de francs d'or cet été. Bon, et l'adresse de la Charrière, d'évidence, c'est quelqu'un qui s'appuie sur le siècle pour progresser.
Et le siècle a appuyé sur lui aussi.
Alors, vous avez, c'est comme ça que, par exemple, il a recruté Alain Gomez, membre du siècle, qui a été PDG de Thomson de 80 à 96, et hop, il se retrouve dans le groupe de l'Adret de la Charrière.
L'Adret de la Charrière, il faut le rappeler pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est le groupe Valeurs Actuelles, entre autres. Hein. C'est le patron, le propriétaire de Valeurs Actuelles. Bon,
c'est le plus gros financier, enfin c'est un des financiers, je pense que c'est le plus gros de la fondation Agir contre l'exclusion de Martine Aubry.
C'est exactement ça, c'est la fondation Agir contre l'exclusion de Martine Aubry.
Martine Aubry, vous avez le numéro 2, parce que je suis en train de rechercher la biographie de l'Adret de la Charrière, vous avez le numéro 2 de son groupe qui doit s'appeler Béatrice Morali, qui est membre du SIEC, vous avez, il a recruté le nouveau patron de la Sofres au SIEC, enfin, où il les a fait rentrer, mais c'est vraiment un groupe qui fonctionne un peu en symbiose avec le groupe Le SIEC.
On comprend qu'on leur pose des problèmes, hein.
Oui, ça évidemment.
En étant vivant, on leur pose quand même quelques problèmes.
Quelques petits problèmes. C'est peut-être pour ça que ça ne va pas durer aussi. Alors,
Dites-nous quel est le titre de cet ouvrage
Il faut préciser. Bon, il y a eu l'ouvrage est imprimé puisque Serge l'a sous les yeux. Bon, ce qu'il y a, c'est que les ouvrages sont en train d'être collés. Il y a eu un petit peu de retard et donc il sera disponible seulement à partir de la semaine prochaine. Bon, alors on le trouvera dans les librairies. Amis, parce qu'évidemment, la FNAC n'en veut pas, et ni les librairies classiques. En plus, moi, j'ai pas les moyens de distribuer par des libraires qui vont me les renvoyer écornés et bousillés parce qu'ils veulent pas le vendre. Donc, ou alors, il faut m'écrire. Donc ça s'appelle Au cœur du pouvoir, c'est à partir de la semaine prochaine.
Alors, le livre. Le mot Le siècle n'est pas dans le titre.
Non, parce que notamment, pour moi, c'est pas. Si vous voulez, le siècle ne dit rien aux gens. Puisqu'en plus, bon, c'est très particulier parce que le siècle, en fait, s'appelle le siècle, parce que l'article 1 de l'association dit la durée de vie de cette association se réduit au siècle. C'est-à-dire que théoriquement, ça doit s'arrêter.
En 2000.
Bon, en réalité, ils ont déjà créé une autre association pour que ça fonctionne. Bon, mais ça, c'est le principe. Bon, personne ne connaît le siècle, donc si je mets le siècle dans le titre, personne ne comprendra. On va croire que c'est un résumé de l'actualité. Et en plus, bon, l'association Le Siècle l'a déposé en marque déposée, et donc ils m'ont dit que si je l'utilisais dans le titre, ils me poursuivraient. Bon, alors, c'est vraiment démodéré.
Alors, ça s'appelle Au cœur du pouvoir.
Ça s'appelle Au cœur du pouvoir.
Et vous disiez qu'on pouvait vous écrire aussi, hein.
Alors, le bouquin fait, je précise, bon, 592 pages, donc ça fait pratiquement 600 pages, et il vaut 195 francs. Donc je pense pas que ça soit exagéré par rapport à l'épaisseur, et je peux vous dire, c'est quand même écrit en petit caractère. Donc on peut écrire.
Ça, c'est du ratier, ça.
On peut écrire pour recevoir une publicité ou commander le livre, bon, il faut rajouter 25 francs de port. Il faut écrire à Facta, 37 rue d'Amsterdam, 75 008 Paris. Je répète, Facta, 37 rue d'Amsterdam, 75 008 Paris.
Attendez, Facta, combien rue d'Amsterdam? 37.
Rue d'Amsterdam.
Alors, Amsterdam. Je crois qu'on tient le mot de la fin.
Non, attendez. Et la fin.
Bon, alors allez-y.
37 rue d'Amsterdam.
Continuez à écrire, c'est à
75.
Parce que les autres aussi,
75 008 Paris.
Voilà. C'est très bien, maintenant.
Et le livre, donc, coûte 195 francs plus 25 francs de port. Donc, ça fait 220 francs.
220 francs. Dès qu'il fait beau, tu pourrais faire une
signature. 220 francs franco.
Alors, attendez donc, on me dit, est-ce que M. Ratier sera ce soir à la mer agitée avec son livre?
Non,
puisqu'il n'est pas paru, il ne sera public la semaine prochaine. Je sais qu'il existe un club qui s'appelle le demi-siècle. Y a-t-il un rapport entre les deux?
Je ne sais pas.
Je trouve suspect que votre invité écrive tant de livres en si peu de temps.
Mais non, il a dit
même
qu'il ne les écrivait pas.
Avec tous les nègres, tous ces nègres n'en fait pas autant.
Mais
comment fait-il?
Non, mais ce sont des collectifs de chercheurs anonymes.
C'est un collectif de chercheurs anonymes qui a apporté ce manuscrit tout préparé à ce sacré vénard de Ratier.
J'ai vraiment beaucoup de chance.
Qui n'a eu qu'à l'imprimer en petit caractère, mais quand même lisible. Voilà, sur 600 pages. Alors que moi, je suis obligé d'écrire mes articles moi-même. Mon vieux, écoutez, c'est pas de justice.
Messieurs de Beckett, Chratier, Olyndre, vous auriez intérêt à enfiler un gilet pare-balles avant de sortir. Vous prenez de gros risques. Vous parlez d'une super trilatérale française dominée par une élite. En entendant les noms de François-Olivier Gisbert et Colombani du Monde, je me sens d'un seul coup moins angoissée.
Il y a un autre auditeur qui dit c'est un club de riches, moi je ne suis pas concerné, je suis un ouvrier. Mais monsieur, vous êtes parfaitement concerné.
Il est concerné parce qu'il y a le PDG de l'UAP, il y a le PDG du Crédit Lyonnais, il y a le PDG de Thomson, il y a le enfin on peut bon je les donne comme ça, c'est pas
c'est pas
le PDG de Rode Poulain qui a etc.
Et la situation c'est les gens, d'ailleurs c'est formidable, en plus c'est une liste extraordinaire pour le jour du grand soir.
Il arrive à ce propos-là de nombreux message. Eh bien, si vous voulez savoir que les gens dont vous parlez, s'ils sont dans le livre, il faut l'acheter.
Oui,
maintenant, nous ne vous dirons plus rien.
On ne peut pas donner tout.
Qu'est devenu monsieur Stéphane Denis?
Je sais pas ce qu'il est devenu, Stéphane Denis.
Stéphane Denis, il a sorti un bouquin dernièrement.
Ah oui, tout à fait remarquable.
Un roman à clé absolument passionnant. Et Jean Bottorel, qui avait écrit donc un bouquin sur le siècle, lui, il a publié en début d'année un bouquin sur les combines de la presse, et notamment au Figaro, ce qui fait que son éditeur, qui l'avait accepté, l'a refusé, s'est paru chez notre ami Jean Picolec depuis, et il a été viré du Figaro. Voilà. Donc on voit tout de suite à quoi ça sert d'être courageux.
Ceux qui ont souscrit...
Et à quoi ça sert d'appartenir au siècle, parce que s'il avait été membre du siècle, Bottorel, eh ben, il n'aurait pas été viré, voilà.
Ceux qui ont souscrit à votre ouvrage il y a quelques mois,
oui.
Quand vont-ils le recevoir?
Oui, dès que je le reçois de chez mon imprimeur, je fais mes paquets et je leur envoie.
Est-il vrai que M. Alexandre Adler, trotskiste, notoire, est conseiller de M. Séguin?
Oui, c'est absolument exact, comme son épouse, Mme Blandine Marie-Krigel, qui vit avec M. Adler. Et
ce qui est normal,
ce sont les, ils passent pour être les principaux nègres de Philippe Séguin, et donneurs d'idées, conseillers pour les relations internationales, etc. etc. Oui, c'est exact.
Est-il vrai que Claude Chirac est une militante trotskiste?
Non.
Bon.
Non, ce qui est exact, c'est... Non, il y a la fille de Maurice Ulrich, qui a occupé des postes éminents, qui s'occupait de la communication auprès de Jacques Chirac. Bon, et sa fille, elle est membre du Parti des Travailleurs de Lambert.
Bah, c'est assez chouette, je trouve. C'est un bon moyen de rencontrer des ouvriers.
Écoutez, c'est un mouvement trotskiste. Et donc, c'est par là que passait une partie des choses. Bon, et on a dit qu'il y avait une des amies de Claude Chirac, une des proches amies, mais moi, j'en sais rien. Je l'ai lu dans la presse à diverses reprises. Bon, qui était effectivement une trotskiste. Mais moi, je m'avance pas là-dessus.
Bon, c'est tellement amusant.
Parlez-nous de Philippe Moinet, Observatoire de l'extrémisme. D'où vient-il? Qui est-il?
C'est hors sujet, ça. Je suis désolé, on y reviendra, mais c'est hors sujet. On y reviendra, on pourra en parler un jour.
C'est le fils du malheureux colonel Moinet.
Moi, je suis désolé.
Il s'arrache les cheveux d'avoir un fils pareil.
Alors, quelques suggestions. Je suggère d'instaurer la Saint-Mitterrand avec un jour de congé à l'appui, bien sûr. Le ministre des Anciens Combattants se déshonore en ne démissionnant pas avec fracas après avoir l'attribution contre son gré de la carte de combattant au brigadiste.
Mais pour se déshonorer, il faut avoir de l'honneur.
L'octroi de la carte des anciens combattants, ça réclame un complément. Il faut l'octroyer aussi aux combattants de l'ALN qui, en Algérie, ont lutté pour la juste cause de l'indépendance.
Ça va venir.
Et puis, les malgré nous, les boudarelles, les séparatistes, machin, bref, il y a de l'avenir. Monsieur, ne pas oublier de signaler qu'on vient de nommer Monsieur Babacar Diop, cabinet du ministre délégué au logement, conseiller technique, chargé des relations avec le Parlement. C'est le porte-parole des sans-papiers de Saint-Bernard. Où va-t-on?
Ah oui, tout droit, on y va.
Que pensez-vous de l'attaque de la rame de métro du 1er janvier? Qu'est le larapé? C'est triste.
Oui, je ne sais pas, il paraît que ce n'est pas vrai.
Ah ben si, c'est vrai, il y a un témoin qui nous a dit qu'ils étaient dans le métro, ça a été lacéré, ils ont été...
Alors voilà, ça prouve que les gens de la RATP sont des menteurs, parce qu'ils ont dit que ce n'était pas vrai.
Ah bon, à propos de la compétence des socialistes, ces derniers viennent de planter un arbre par temps de gel. Il va bientôt crever. Ils ne diront pas comme qui.
Voilà, on va peut-être en rester là.
C'est gentil, ça, tout
non,
ça.
Mais c'est, non, c'est pas
ça,
vrai.
Quoi?
Comment c'est pas vrai? C'est très... Il faut évidemment planter des arbres quand ça gèle. Voilà. Hein. C'est vraiment des gens qui ne sont pas... C'est vraiment des gens qui sont...
On plante des arbres à la Sainte-Catherine, le 25 novembre.
Mais non, mais on les plante toujours quand il fait froid... même bon, c'est vrai que là la terre est dure, mais ça pose absolument aucun problème
Emmanuel, je vous inviterai un soir en même temps que Cécilie Adem pour en parler de ce sujet. Mais vous voyez, alors ça, l'indignation d'Emmanuel devant cette question. Non, c'est fini,
pratique,
Victoria.
Au cœur du pouvoir, pour l'obtenir, à quel nom doit-on libeller le chèque?
Facta.
Ah, vous voyez que c'est
facta
sunt.
Facta,
F-A-C-T-A.
Voilà.
Est-ce le même facta qui édite les livres de M. Ratier et qui distribue le livre du docteur Louis de Brouwer?
De Brouwer? Non, visiblement. C'est non, bien
ce sont mes bouquins.
Voilà, mais le livre du docteur de Brouwer. Non, le docteur de Brouwer devrait venir à cette émission prochainement. Voilà, je le signale s'il accepte mon invitation.
Répétons l'adresse encore une fois.
Facta, 37 rue d'Amsterdam, 75008 Paris.
Et restez à l'écoute parce que nous recevons Marc Dem et j'ai un appel pressant à vous lancer.